Maybe no, she never stop. Take it friend to take it for a cook and she play the buffer. Maybe she go go. Maybe no, she never stop. Take it friend to take it for a cook and she play the buffer.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, ouvrez grandes vos oreilles pour ce numéro très spécial de Même pas mort, émission musicale de la classe de 4e C du collège Jean-Baptiste Vatelot de Toul. Une émission surprenante qui vous propulsera dans les méandres du temps et de l'histoire musicale avec la présentation d'artistes extraordinaires, partis bien trop vite, fauchés dans la fleur de l'âge, happés en pleine gloire et promis un culte posthume ici-bas. Premier saut avec Abou Majakoy, le Jamaïcain, sans qui le reggae ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui.
Même pas mort, l'émission des 4e C sur Radio Déclic. Je kiffe.
Abou Majakoy est né en Afghanistan le 18 novembre 1959 d'une mère afghane et d'un père camerounais. Il a vécu dans la misère et a connu la guérilla qui a opposé les rebelles afghans aux soviétiques. C'est d'ailleurs pour cela, en grande partie, qu'il est devenu chanteur, pour échapper à cet univers triste et violent. Tout petit déjà, Abou souhaite vivre dans un monde en harmonie, tranquille, serein et paisible. Il veut être le garçon le plus cool de tous les temps. C'est le reggae qui lui apportera cette liberté.
En effet, à l'âge de 10 ans, Abou entend la musique reggae de Bob Marley pour la première fois. Une musique qui vient de l'autre côté des montagnes et de l'océan Atlantique, une musique qui n'est pas près d'oublier. À partir de cette période, il se met à écouter le grand Bob tous les jours, malgré l'interdiction de ses parents qui trouvaient que cet artiste n'était pas un bon exemple pour leur fils. Il trouvait en effet que ce chanteur, aussi cool soit-il, fumait trop d'herbes pas fumées.
Adolescent, Abou est particulièrement grand. Il mesure 1m89 pour un poids de 90 kg. Il ne passe pas inaperçu. Il veut s'habiller tout comme son idole et pratique le djembé et la guitare acoustique. Il commence à composer quelques chansons et s'inspire de la vie quotidienne pour écrire ses textes. En 1973, ses parents ont dû déménager pour des raisons de santé en Jamaïque où ils avaient des relations. La scrofopoule faisait alors des ravages et toute consommation excessive de poulet pouvait être fatale. La famille s'installe donc à Kingston.
Un jour, ses parents l'emmènent voir un concert de reggae sans savoir qui était à l'affiche. Oh, surprise! C'était le grand Bob Marley lui-même. Ce jour-là, Abou Majakoy eut la certitude qu'il voulait devenir aussi célèbre que Bob et chanter la paix, l'amour et la fête. Il se lance alors lui-même sur les scènes jamaïcaines. À son premier concert de reggae, Abou Majakoy connut un succès phénoménal. Puis, il a vendu plus de 100 000 exemplaires de son tube qui s'intitulait « La revanche du poulet ». En 1979, il a vendu plus de 70 albums dans le monde. C'est énorme! Il enchaîna avec « Tu pues le chat » et « Canard WC ». Il décide de composer un album reggae dont le titre « Le tueur de saucisson sec » est un hommage à ses ancêtres. On ne sait toujours pas pourquoi.
Puis, en 1981, il composa une autre chanson, « Dents de sabre ». Mais malheureusement, ce tube ne connut pas un grand succès. Et Abou décida d'arrêter tout. La chanson, le groupe, le poulet, tout quoi. Mais sa mère, qui trouvait encore il y a quelques années que le reggae n'était pas fait pour son fils, va aider Abou à retrouver la confiance perdue. Abou, soutenu par sa mère, va reprendre le groupe et revenir comme un dieu à la musique.
Malheureusement, il est mort prématurément en 1997 en sniffant une cuisse de poulet dans son salon de 10 mètres carrés, entouré de toiles et de peaux d'animaux morts séchés. La scrofopoule l'avait rattrapé. À son âme, cria sa mère lors de son enterrement dans un carton joliment décoré.
Abou avait un cousin qui s'appelait Maru Makabe, lui aussi fan de Bob Marley, mais surtout de son très cher cousin Abou Majakoy. Aujourd'hui, Maru Makabe vit encore en Jamaïque. Il a maintenant 58 ans et vit paisiblement avec ses 8 enfants. Il se souvient avec émotion de son grand cousin et répond à nos questions.
Avez-vous aidé d'une façon ou d'une autre Abu Majakoy à devenir célèbre ?
Ouais. Dès le premier album, je lui ai trouvé le nom La Revanche du Poulet, qui a été un grand succès dans le monde entier.
A-t-il fait d'autres albums avec vous ?
Oui. Il a fait une vingtaine d'autres albums. Il était super productif, mais il y en avait de très célèbres et appréciés partout. Tu pues le chat et Canard WC Live, dont je suis très fier.
Et a-t-il composé une chanson pour ses parents ?
Oui, en effet. Il écrit un single pour sa mère parce qu'elle ne voulait pas qu'il se lance dans l'oreiller. Il risquait, disait-elle, de tomber dans la consommation excessive de poulet. Cette chanson a permis à Abu de répondre à sa mère et à lui montrer qu'elle s'était trompée.
Mais après son phénoménal succès, que lui est-il arrivé ?
Il a continué à chanter après une pause de plusieurs années, mais un jour qu'il était en manque de chips, il a voulu sniffer une cuisse de poulet. Il avait oublié la malédiction de la scrofopoule. C'est moche ce qui lui est arrivé.
Quelles ont été les conséquences immédiates ?
Il s'est étouffé avec la cuisse de poulet.
Oui, bien sûr, mais je voulais dire sur le plan artistique.
Ah oui, c'était en pleine session d'enregistrement d'un album qui n'a jamais vu le jour. Dommage, car les versions étaient absolument géniales.
Merci bien, monsieur monsieur B.
Même pas.
L'émission musicale des 4e C.
C'était Bob Marley sur Radio Déclic dans l'émission Même pas mort, l'émission des 4e C. On poursuit notre voyage en traversant l'Atlantique. Londres, 1976, explosion du mouvement punk, trois accords qui s'enchaînent et une énergie surtout issue du rock, basée sur des guitares sales et tranchantes. Steve Finger laissera une empreinte indélébile et pas débile dans l'histoire de la musique pop moderne. Total respect.
Steve Finger est né à Londres le 13 mars 1960 de façon un peu spéciale, car il est né avec une crête de punk sur la tête. Sa mère n'a pas pu supporter le choc de cette vision de l'enfer et mourut en poussant un cri très rock'n'roll. Lors de sa naissance donc, son père voyant que le petit Steve ne grandirait pas avec tout l'amour d'une mère, il décida de lui donner autant d'affection que sa propre mère aurait pu lui donner. Il grandira pourtant dans un univers agité. À 14 ans, en échec scolaire, Steve ne sait plus quoi faire de sa vie. Il s'ennuie profondément. Il écoute alors beaucoup de groupes musicaux et son préféré devient rapidement les Sex Pistols. À l'âge de 15 ans, il fonde son premier groupe de punk rock avec plusieurs de ses amis du lycée. Son père l'encourage à fond.
Steve s'est fait une promesse, ressembler un jour au chanteur des Sex Pistols, Sid Vicious. Il s'est donc acheté une guitare, une Kramer et un ampli Marshall, en travaillant comme mécano dans un garage durant les grandes vacances. Il a ensuite appris à jouer tout seul, cela s'entend bien. Il cherche un nouveau batteur qui cogne très fort, et un solide bassiste. Il répète dans un garage toutes les nuits sur sa Kramer. Les voisins n'apprécient guère, on se demande bien pourquoi. Ce premier groupe ainsi formé s'appelle The Punkiki. Après avoir tourné dans les minables clubs londoniens, les Punkiki ont fait d'autres concerts dans des lieux parfois improbables, comme une usine désaffectée, un gymnase dans un lycée catholique ou une décharge publique. Un premier single voit le jour grâce à l'argent ramassé. Il s'agit du fameux Rikiki Punky, qui connut un succès d'estime chez les punks londoniens. Mais la route vers la gloire est semée d'embûches. C'est ainsi qu'ils ont commencé dans la scène indépendante anglaise, participant sans le savoir au grand mouvement qui allait révolutionner la scène musicale des années 70.
Steve et son groupe ont persisté dans ce milieu qu'ils affectionnaient tant. Mais le groupe commençait à s'essouffler. Ils en avaient ras-le-bol de se faire insulter par les fans éméchés, passés à tabac par une bande de bisounours qui s'étaient trompés de concert, et de devoir manger des testicules de mouton lors de leur tournée misérable en province. Il n'y avait pas assez d'argent pour pouvoir manger un vrai repas. Bref, le groupe de Steve allait au plus mal. Jusqu'au jour où, au bout du rouleau, ils décidèrent de faire une dernière représentation dans une école maternelle. C'est tout ce que leur agent leur avait proposé. À la surprise de tous, ils eurent beaucoup de succès. Les 3-4 ans applaudissaient à tout rompre, tandis que les 5 ans commençaient déjà à casser le mobilier. C'était vraiment génial. Très heureux de ce triomphe, ils ont retrouvé le moral et sont repartis heureux. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'un des parents d'élèves était en réalité un producteur célèbre. Il y avait en effet produit et managé Sid Vicious, l'idole de Steve. Quoi qu'il en soit, le producteur décida de les contacter et de leur faire enregistrer un 45 tours qui s'intitule « Les bonbons tueurs ».
Une semaine après la sortie de la chanson, elle était déjà classée premier des charts. Et y resta pendant 7 semaines consécutives. Le groupe de Steve était désormais au sommet. Pour des raisons artistiques, les Punkiki deviennent les Sex Slimy en 1979. Et Steve enchaîne les concerts, où il délivre toute sa rage, sa hargne et sa violence si longtemps contenue. Malheureusement, son père décède cette année-là. Alors qu'il était en train de jouer de la guitare avec ses dents, comme Jimi Hendrix, il avala un plombage, ce qui provoqua une hémorragie interne assez dégoûtante. Cet événement fut un choc terrible pour Steve. Il se jura de poursuivre l'œuvre de son père en s'ouvrant immédiatement une canette de bière avec les dents. Mais la belle histoire prend fin le 8 juillet 1981. Steve Finger meurt à l'âge de 21 ans, dans des circonstances vraiment dramatiques. Alors qu'il était en plein concert sur le toit d'un immeuble, Steve se lance les bras ouverts sur son public comme il en avait l'habitude. Mais il rata sa cible et se retrouve 30 mètres plus bas, en miettes sur le trottoir.
Ses musiciens le suivent sans hésiter. Plus dure sera la chute, mais Steve entre ainsi dans la légende du rock.
C'était les Sex Pistols sur Radio Déclic pour l'émission Même pas mort. Changement de cap, changement de lieu, de riff et de rythme avec MC Chique Pouf, rappeuse éternelle de la Cité des Anges, Los Angeles bien sûr, jeune fille qui, de son flow bien assuré, a révolutionné le hip-hop américain. Parce qu'il y a aussi une place à prendre pour les filles. Yo, on écoute tout de suite.
Née le 8 février 1976, Sabrina MC Ferson, alias MC Chique Pouf, a grandi à Los Angeles dans un ghetto entouré de Mohamed, Khaled, Farid et Rachid, ses quatre grands frères qui l'ont laissée un peu de côté car c'était une fille. Et tout le monde le sait, une fille ça crée des histoires, ça fait que de pleurer et se plaindre tout le temps, et en plus ça s'habille comme une fille. Bref, pas drôle. Sa mère élève seule ses cinq enfants depuis que leur père est décédé accidentellement en livrant de nuit une pizza en roller sur l'autoroute.
Aidée par sa famille, par ses amis, seule chez elle dans sa chambre rose bonbon, elle commence à composer des textes dans lesquelles elle parle de ses différents problèmes d'enfant puis d'adolescente. Elle écrit sur ce qui fait sa vie dans son quartier, ce qu'elle ressent en tant que jeune fille du ghetto, sa colère, ses amours, ses envies.
À l'école, elle reste souvent seule parce qu'elle pense beaucoup à son cochon d'Inde. Nous savons beaucoup de choses sur cette période quand on écoute sa chanson « Cochon d'Inde in the city ». Car quand elle se sentait mal aimée, elle partageait ses angoisses avec son cochon d'Inde qui s'appelait le Grinch, car elle aimait le peindre en vert. Quand elle était très en colère, elle avait un petit surnom qu'on lui donnait depuis qu'elle était toute petite. C'était « Petite queue de pampin », car elle tapait du pied quand elle se trouvait stressée ou en danger. L'influence de Bambi sur son style de rap est indéniable. Quand elle chante d'ailleurs, elle tape toujours du pied pour donner du rythme.
Elle rencontre des problèmes de santé qui la poursuivront pendant longtemps. Elle souffre de narcolepsie, maladie incurable qui la plonge dans un sommeil n'importe où malgré elle. Le soir, elle sort accompagnée du plus jeune de ses frères, Rachid, qui fut d'ailleurs le seul à la soutenir et à croire en elle. Elle participe à des clashs, joutes orales et verbales où s'affrontent les meilleurs rappeurs. Elle est douée, mais il lui arrive de s'endormir en plein milieu d'un verre ou d'une rime, ce qui est assez gênant et ruine à sa réputation. On l'appelle alors Ouf, la rappeuse, car elle tombe de la scène en s'écroulant comme une masse. Au début de sa carrière, elle avait quand même du mal à convaincre ses auditeurs à cause de cette satanée maladie. Cela l'a beaucoup énervée. Partout où elle allait, elle entendait toujours la même chose.
Wow, t'as vu MC Chique Pouf ? C'est nul, tu trouves pas ? Elle arrête pas de s'endormir entre deux phrases.
Lorsqu'elle entendait cela, elle rentrait chez elle et après avoir épuisé une boîte entière de mouchoirs, elle se disait en son fort intérieur.
Bon, il faut que je tienne si je veux vendre beaucoup d'albums un jour.
Quelle rage de vaincre tout de même.
Même pas mort. L'émission des quatrièmes, c'est sur Radio Déclic. Je kiffe.
Adolescente, c'est une fille très gentille, mais caractérielle, comme toutes les filles. Elle est toujours prête à aider son prochain. Elle adore la musique et écoute beaucoup de rap. C'est son seul moyen d'échapper à la dure réalité de son monde. Elle aime les animaux et possède un gentil poisson rouge, ainsi qu'un hamster mort, parce que sa mère n'a pas voulu le remplacer, alors tant pis, faut bien occuper la cage. Mais c'est à travers ses textes que la personnalité de cette jeune artiste apparaît le mieux. Avant de faire du rap, sa chanson préférée était Baby Girl, chantée par le groupe Aqua. Pas très rap tout ça, mais elle a compris que ce n'était pas ce style musical qui l'attirait vraiment. Elle fut la première rappeuse à s'inspirer de Walt Disney pour ses textes et sa musique. Son livre préféré était d'ailleurs Pocahontas, qu'elle avait lu au moins 3 fois avec les images.
Elle a pour habitude de se débrouiller toute seule, ce qui va lui permettre de percer dans ce milieu très masculin de hip-hop, et elle persévère en écrivant des textes accrocheurs et rythmés. Elle a un look facilement reconnaissable, avec ses longs cheveux bruns détachés, accordés à ses yeux. Elle porte des lunettes noires et une casquette de travers. Elle a aussi une grosse chaîne autour du cou avec un Dumbo dessus. Elle porte le plus souvent des baguilles, des pulls fins qui laissent découvrir un piercing au nombril.
Son premier single fut un carton, elle doit son succès à son manager Robert James, mais surtout à elle-même. C'est à l'âge de 19 ans qu'elle réalise son rêve et qu'elle commence à vendre beaucoup de singles grâce à un duo percutant avec 50 Cent. Elle retrouve enfin le sourire grâce à son premier album, Yo, ne comprends-tu pas, dans lequel on pouvait trouver ses plus belles chansons où elle ne parlait que d'elle.
mais à la sortie de son deuxième album, Love People, qui va surprendre tous ses fans. Il y a même eu des reprises, des parodies ou des remixes d'un de ses plus grands tubes, Cochon Dingue in the City. Sa mère était très fière d'elle, mais ses frères sont très jaloux. C'est à cause de cela que pendant une période, elle disparaît un peu de la circulation. Elle revient enfin avec son troisième album, avec l'aide de son manager, le toujours fidèle Robert James, intitulé « J'en ai marre, je ne veux pas dormir ». Son premier single s'intitule « Hot Lollipop », car elle aimait bien les sucettes. Son album et son single furent un vrai carton, plus de 2 millions d'exemplaires vendus. Elle sort directement son quatrième album intitulé « Bing Bing, Blanc Blanc, Laisse tomber », où l'on retrouve ses derniers tubes « Tu me manques mon cochon », en hommage à son cochon d'Inde. Elle sort ensuite son deuxième single intitulé « Get Get les pigeons », un succès aussi.
Foudroyée en pleine gloire, durant l'été 2006, c'est en voulant observer son poisson rouge de plus près qu'elle connut une fin tragique. Elle coinça sa tête dans le bocal et se noya très rapidement. Triste fin pour cette artiste très prometteuse.
Qui m'a dicté mes codes, on m'a dicté mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets, il fait trop tard dans l'hôtel.
Alors ouais, je me la raconte, ouais, ouais, je déconne. Non, non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes, on m'a dicté mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets,
sortez les briquets, sortez les briquets.
Y'a comme un goût de haine quand je marche dans ma ville, y'a comme un goût de gêne quand je parle de ma vie, y'a comme un goût d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000, y'a comme un goût d'erreur quand je vois le taux de suicide. Me demande pas ce qu'il épouse à casser des vitrines. Je suis pas la mairie, je suis qu'une artiste en devenir, moi. Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'ai le bac, j'ai que le rap et je l'embarque, je l'embrasse, je le macare, je l'embrasse. Y'a comme un goût d'attentat, comme un goût de Bertrand Cantat, comme un goût d'anthrax pendant l'entracte. Y'a comme un goût de foulette, foulette chez les mots, comme un goût de boulette, boulette sur les ondes. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on est. Comme un goût d'alcool dans les locaux de police, y'a comme un goût de peur chez les meufs de l'an 2000, y'a comme un goût de bœuf dans l'oxygène qu'on respire. Me demande pas ce qu'il épouse à te casser les couilles. J'suis pas les secours, j'suis qu'une petite qui se débrouille, moi. J'suis qu'une boulette, me demande pas si j'aime la vie. Moi j'aime la rime et j'emmerde Marine juste parce que ça fait zizi. Y'a comme un goût de bad boy, comme un goût d'Al Capone, comme un goût de hardcore,
hardcore
dans les écoles. Y'a comme un goût de foulette, foulette chez les mots, comme un goût de boulette, boulette sur les ondes. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on est. Comme un goût de michto près des mercos. Y'a comme un goût de coucou dans les chambres des jeunes. Y'a comme un goût de boum boum dans le cœur de mes sœurs. Y'a comme un goût de chouille saoulé de tout ce qui se déroule. Y'a comme un goût de foulette, de boulette qui sont dans la foule. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on est ton. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, non, génération, non, non. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on est ton. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, non, génération, non, non.
Qui nous a dit.
C'était Diams. Et si on restait sur le continent américain ? Voyage dans les États-Unis de la guerre froide, après-guerre, où l'on découvre peu à peu le son sauvage des guitares rock'n'roll, d'un certain Elvis Presley et d'une autre légende de la musique, un artiste sans concession, aux multiples disques d'or, aux touchés de cordes inimitables, j'ai nommé Teddy by Redskin.
Il s'appelait Teddy by Redskin, et c'était certainement le plus grand chanteur de pop de son époque. Son vrai nom était Michael Clarkson, mais comme il le trouvait ridicule, difficile à porter, il y renonça très vite pour adopter un pseudonyme dont les gens se souviendraient plus tard. Il est né le 12 juillet 1950 à Boston, dans un bus, sa mère n'ayant pas eu le temps d'appuyer sur le bouton pour demander l'arrêt du véhicule. C'est l'époque d'Elvis Presley, dit le king du rock and roll. Et toute l'Amérique danse au son de cette musique endiablée. La famille du petit Teddy est assez riche pour lui offrir quelques cours de piano et de flûte traversière. Mais Teddy est un enfant rebelle qui s'ennuie très vite. C'est un enfant gâté qui sème le trouble partout sur son passage. Il fugue à plusieurs reprises suite à différentes disputes avec son père.
Un jour pourtant, il a un vilain accident de moto à l'âge de 18 ans qui l'oblige à rester dans un fauteuil pendant plusieurs mois. Il emprunte alors la guitare acoustique de son frère de 21 ans et la première fois qu'il joue, il sort des notes justes et rythmées. Il décide alors d'apprendre la guitare électrique. Il commence ainsi à composer ses premières chansons. Teen of Rock et Semelle de cuir datent de cette première époque de composition.
Ayant vécu des relations difficiles avec sa famille, il décide alors de se lancer dans la chanson, seul domaine où il se sent parfaitement à l'aise. Il va ainsi consacrer une bonne partie de sa vie à la pop, Made in USA. Il sort son premier album, Tu vas pleurer des yeux, qui rencontre un énorme succès, ce qui l'encourage à continuer. C'est pourquoi il sort son deuxième album, Stinky Feet, un album de révolte et de rébellion qui l'impose parmi les plus grands rockers. Cet album va définitivement lui faire une réputation dans l'univers de la chanson. Chacun de ses concerts affiche complet, c'est l'hystérie collective sur son passage.
Lors d'un concert, il rencontre Céline Pion, une chanteuse qui peut hurler plus fort que les baleines. C'est le coup de foudre et il se marie. Il enchaîne ensuite les tubes et les succès. Très grand artiste, ses plus grands fans sont les écolières déchaînées et les lycéennes enragées. Il chante parfois en duo avec Céline Pion, qui n'était pas trop motivée, parce qu'elle n'aimait pas trop ses chansons et elle n'aimait pas vraiment chanter avec un chanteur de rock. Fan d'Elvis jusqu'au bout des ongles, il décide de se faire la coupe et le wap-wap le goût. Il déchire son t-shirt personnalisé en rouge et noir et fonce sur tout ce qui est rouge et tout ce qui bouge. Quelques années plus tard, l'immense, que dis-je, le phénoménal Teddy by Redskin meurt, foudroyé subitement, à l'âge de 35 ans en allumant un pétard qu'il avait confondu avec sa pipe habituelle. Quand ses amis l'ont trouvé par terre, ils l'ont pris et l'ont mis dans un cercueil de verre afin de le vénérer comme un dieu. Aujourd'hui, nous lui rendons hommage.
start walking. Come on, come on.
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 Don't procrastinate, don't articulate, girls get paid, you sing with me.
L'émission musicale des 4e C.
C'était Elvis Presley dans Même pas mort, l'émission des 4e C. Une émission concoctée et préparée tout au long de cette année scolaire. On termine notre périple par une halte exotique au pays du football, du carnaval et des rythmes chaloupés. Au Brésil, où va naître, au début des années 80, un artiste polyvalent, touche-à-tout, le délicat Chikawa.
Ce brave garçon aux allures de playboy est né en mars 1980 dans un petit village brésilien, non loin de Rio de Janeiro. Chikawa appartient à une famille très pauvre. Il a un frère, nommé Alfredo, et deux sœurs, Julia et Conchita Maria, et ses parents s'appellent Fernando et Maria Santos. Ce sont de gentils gens qui vivent dans les dénuements les plus complets. Ils n'ont rien à offrir à leur nouveau fils qui vient au monde. Aussi, choisissent-ils un prénom qui signifie « celui qui va pile dans la rue » et qui pourrait peut-être mettre des sandales et un short s'il ne veut pas souffrir inutilement. Un nom un peu long, certes, mais qui signifie tant pour celui qui le porte.
C'est un enfant capricieux, parfois avec ses parents, quand il a une idée en tête et il est plutôt du genre timide. À l'âge de 8 ans, avec sa famille, il assiste à un superbe carnaval très coloré. Les tambours claquent, la musique résonne. C'est une révélation pour lui. Il n'a même pas un mouchoir pour pleurer de joie et se moucher par la même occasion, car sa mère a vendu tout ce qu'il leur restait pour faire le voyage. Qu'à cela ne tienne, la robe jaune de sa sœur fera l'affaire.
Depuis cette époque, il n'a plus qu'une seule ambition, un seul rêve qui passe par-dessus tout le reste, qui lui donne des ailes pour la vie entière. Le porte au sommet, devenir chanteur de samba et avoir beaucoup de plumes sur la tête, d'ailleurs, si l'occasion se présente.
En 1995, après avoir connu bien des déboires, comme se faire écraser par un char rempli de bananes lors du traditionnel défilé du carnaval de Rio, tomber d'un immeuble de 4 étages tandis qu'il secouait négligemment ses maracas, ou prendre de nombreux coups de poireau dans les fesses sur un marché où il avait été confondu avec un voleur. Il décide de réaliser son rêve ultime, même s'il doit pour cela tout sacrifier. Il part en Amérique.
Quelques jours plus tard, après avoir copieusement vomi sur l'hôtesse de l'air dans l'avion, il débarque en Floride, armé de quelques chansons qu'il a écrites rapidement sur l'accoudoir B-123 de l'allée centrale. Ses futurs tubes resteront pourtant encore à l'ombre de succès quelques années, comme I Love Banana et Toute la pluie qui tombe mouillée. Pourtant, tout le potentiel mélodique et rythmique de Chicago est déjà là. Des standards comme Polka Tuba ou son énorme tube Anna la fille de Panama regorgent de trouvailles et d'arrangements subtils. Avec une simple guitare de la Cavaquinho, une petite guitare à quatre cornes, quelques accords bien choisis. Chicago émeut et laisse passer toute l'âme de la musique brésilienne dans sa voix ensorceleuse. Son plus gros succès, Chicago Awa, se vendra plus tard à plusieurs millions d'exemplaires. Une réussite inégalée pour un artiste brésilien.
Après quelques mois de galère, de petits boulots et de chansons dans la rue et le métro, il travaille quelques temps dans une cafétéria pour gagner un peu d'argent. Un soir, il demande à son patron s'il peut jouer devant les clients. Celui-ci accepte par charité. Un soir, un gros producteur d'une maison de disques entend la voix sublime de Chicago. Il est charmé, il saute dessus dès qu'il a fini de jouer et lui propose d'enregistrer un single. C'est le début du succès. On lui promet alors une grande carrière dans la chanson.
Pourtant, après de nombreux déboires, des soirées ratées et une tournée de 2 ans en Europe, il décide d'arrêter la chanson du jour au lendemain et de se mettre au théâtre, son autre passion de toujours. 5 ans plus tard, en mars 2003, après avoir épuisé tous ses droits d'auteur à convaincre le metteur en scène qu'il était vraiment doué, dépensant ainsi l'argent qu'il avait gagné, il va passer une audition pour la pièce « La mort est ton cadeau » et il est choisi pour le rôle principal par le metteur en scène. Lors des répétitions, tout se passe à merveille. Mais dès la première représentation, l'accessoiriste, un débutant du nom de Geoffrey Vibrac, après avoir mangé beaucoup trop de saucissons, se trompe et échange le faux couteau qui était censé le tuer dans la pièce. C'est le couteau encore plein de peaux de saucissons qui reste à planter dans le dos du pauvre Chicago qui s'effondre sur scène. C'est un drame incroyable et une perte immense pour la chanson moderne. Homicide ou accident ? Le mystère de sa mort n'est toujours pas éclairci.
Coisa de menos no seu coração, ah.
Formosa, não faz assim. Carinho não é ruim. Mulher que nega, não sabe não. Tem uma coisa de menos no seu coração.
A gente nasce, a gente cresce, a gente quer amar. Mulher que nega, nega o que não é para negar. A gente pega, a gente entrega, a gente quer morrer. Ninguém tem nada de bom sem sofrer, formosa mulher.
A gente nasce, a gente cresce, a gente quer amar. Mulher que nega, nega o que não é para negar. A gente pega, a gente entrega, a gente quer morrer.
Ah, Brésil, Brésil, c'était Ciro Montero sur Radio Déclic pour Même Pas Mort. Notre émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis et écoutés. Un grand merci à toute la classe de 4e C. Alicia, Andy, Nolan, Joris, Jordan, Charline, Charlotte, Alexandre et Alexandre, Coralie, Florian, Romain, Julien, Samuel, Jason, Maxime, Quentin, Geoffrey, Camille, Timothy et Johan qui ont écrit tous les textes, qui ont composé les jingles que vous avez entendus. Merci à leur professeur principal, Madame Delaforge. Merci à Monsieur Larory, chef d'établissement du collège Jean-Baptiste Vatelot, pour son soutien. Merci surtout à toute l'équipe de Radio Déclic et à Fred en particulier pour ce partenariat créatif et technique qui a permis de concrétiser ce très beau projet pédagogique. C'était Même Pas Mort. Allez, bon vent et que la musique soit avec vous.
Formosa mulher.
L'émission des 4e C.
Sur Radio Déclic. Je kiffe.
Maybe she go go. Maybe no, she never stop. Take it from she take it for a walk and she play the ball.